Tiens, un cours comme ça, parce que je ne sais pas refuser. Alors, c'est trop dangereux. Et comme ce soir, on va commencer une réflexion. On va commencer. Pardon ? Le cahier, faites passer le cahier. Pas sur la table. Tiens, tu peux me débarrasser un peu. Là. Qu'est-ce qu'il va avoir de plus ? Bien, est-ce que tout le monde a pu avoir une feuille ?
Non.
Qui n'a pas ?
Tiens, tu prends.
Alors, essayez de suivre un sur deux. Allez, laissez-moi parler, j'ai pas une voix forte. C'est-à-dire, nous allons commencer ce soir une des références, la première d'ailleurs qu'on va étudier, et ça va nous prendre plusieurs séances. Alors, essayez de ne pas manquer entre-temps. Okay. Et d'autre part, ça nous coûte extrêmement cher de faire ces photocopies. Alors, si vous pouvez avoir une macérette Ketuvot, amenez-la, comme ça économise une feuille pour quelqu'un d'autre. C'est macérette Ketuvot. Je pense que ça existe dans vos bibliothèques. Vous avez au moins une Ketuva à amener. Alors, macérette Ketuvot. C'est-à-dire 110B, 111A. Hein? Je vous donne la page, le numéro de la page. En tout cas, c'est la macérette que tu veux. Alors, d'autre part, je vais avoir souvent à utiliser ce livre qui s'appelle Em Avanim Semecha. Vous pouvez l'avoir au Machon Pri Haaretz. Je mets le titre au tableau. Em Avanim Semecha. Alors, ceux qui peuvent l'acheter, ça vous servira. On essaiera de temps en temps de faire une photocopie, mais on va voir souvent ce que fait ce livre-là. Je vais vous en dire quelques mots très très rapidement. C'est un rabbin de Hongrie.
On en a parlé ?
Allemand. Et c'est un rabbin de Hongrie qui a vécu toute la Shoah à Budapest, caché, et qui, de mémoire, a retrouvé toutes les références nécessaires pour essayer de tenter de formuler une explication de ce qui arrivait en fonction avec les données de la foi juive, comme j'ai dit tout à l'heure. Avant d'aborder notre référence, et on a besoin de cette page à cause d'un mot, comme vous allez le voir, mais on aura à étudier chaque phrase pour elle-même, ça va nécessiter de très longs développements, parce que c'est là que se greffent toutes les thèses que nous allons critiquer. Mais nous aurons encore d'autres références sur la réponse que donne la Gemara à l'interrogation que nous sommes posée. Je ne répète pas en détail dans les trois cours d'introduction comment garder une cohérence, une conformité des fondements de la foi juive, étant donné que le monde dans lequel nous vivons peut connaître un événement comme celui de la Shoah. On a eu différentes formulations de la question, mais vous comprenez quelle est la question elle-même. Je voudrais, en introduction à l'étude de la Gemara que nous allons commencer, je vous demander 2 minutes pour arriver à retrouver cette référence que je n'ai pas marquée, et vous lire la manière dont ce Rav, qui faisait partie dans la première partie de sa vie de ce qu'on pourrait appeler les Haredim, c'est-à-dire ceux qui ont opté pour une vision de la messianité radicalement opposée au sionisme, c'est clair pour tout le monde ? Enfin, s'il y a un mot qui n'est pas clair, vous m'arrêtez, et que sous le choc de l'événement de la Shoah, il a compris qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait pas, étant donné la massivité de l'événement, qu'il ne s'agissait pas qu'il ne pouvait pas s'agir de persécution habituelle. C'est le point qu'il faut bien retenir. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir eu cette prise de conscience et l'avoir écrit. Mais je crois que c'est le travail le plus considérable et d'autant plus génial, si j'ose dire, qu'il n'avait aucun livre à sa disposition et qu'il a tout cité de mémoire. Et en plus, imaginez le genre de vie qu'il vivait à ce moment-là dans cette communauté de Budapest. Et comme d'autre part, il était parallèlement préoccupé du problème de la tension entre le milieu orthodoxe et le milieu sioniste, alors il a l'idée, c'est plus qu'une idée, c'est une intuition de base, maintenant nous sommes familiers avec cela, relier les deux problèmes. Et ça va nous donner un fil conducteur de cette étude. Et je voudrais d'abord retrouver cette phrase que je voudrais vous citer, hein, je vous demande deux minutes. Nous aurons d'ailleurs à reprendre en détail les références qu'il cite ici. Mais voilà sa première manière de poser le problème. Si nous partons du postulat que l'exil punit les fautes, alors par rapport à la Shoah, qui est un des événements de l'exil, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans cette première cohérence, que la Shoah se situerait comme une des persécutions plus fortes, mais de même nature, des événements de l'exil, auquel le juif traditionnel s'était habitué que dans l'exil, on souffre, et cette souffrance est une souffrance d'expiation des fautes. Quand je dis les fautes au pluriel, l'idée c'est les fautes que l'on peut faire dans la vie. Ce qu'on a assisté au cours de tout à l'heure, nous verrons des références, surtout dans la Gemara, où lorsqu'on dit la faute, ça a un sens bien précis. C'est clair ? Alors il pose la question, si nous partons du postulat que ces souffrances, c'est pour expier des fautes. Et vous rappelez, c'est une des thèses que nous aurons à critiquer par le fait de la disproportion entre les fautes qui peuvent être faites, qui ont été faites depuis que le premier homme existe, si j'ose dire, et encore une fois, cette énormité de l'événement qui viendrait comme punition de ces fautes. C'est ce système de réponse qui introduit plus de mystère qu'il y avait dans la question avec la réponse, c'est le genre de raisonnement duquel il faut se méfier. C'est-à-dire, on a une question, il y a un élément mystérieux, cette disproportion entre l'événement dans l'existence et le problème du mérite, et puis du démérite. Hein. Alors, lorsque la réponse introduit un mystère supplémentaire, exagère la difficulté de la question, c'est que c'est un raisonnement fallacieux. La réponse étant, eh bien, c'est les fautes habituelles. Alors, ça renforce le mystère de la question, au lieu de donner une réponse. J'ai compris ce genre de mentalité qui est malheureusement très courant dans les milieux piétistes, où on ne perçoit pas non seulement l'illogisme, mais le caractère, somme toute, en fin de compte, délirant de la réponse lorsqu'il s'agit d'une telle question. Est-ce que c'est clair ? Et vous voyez d'où ça vient ? C'est une analyse que nous avons eue précédemment, de ce que trop rapidement on a banalisé l'événement. On l'a ramené au niveau banal, que si tu ne te conduis pas bien, tu seras privé de défaut. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Alors que l'événement lui-même doit être gardé dans sa massivité, de telle sorte de comprendre à quel niveau de problématique la question se pose et la réponse doit être donnée. C'est clair jusque-là. Alors donc, à partir de ce postulat, il dit, chez En Anu Margishim, nous ne ressentons pas, nous ne diagnostiquons pas, Bezechet Anachnu Lokim, à cause de quelle faute nous sommes frappés, tant de fois souvent, mais où et pourquoi nous ne ressentons pas cela? Mi pene shenanu mezarzim atzmenu la shuv laaretz. Parce que nous sommes, je traduis en interprétant un peu, mais je pourrais traduire littéralement aussi. Parce que nous sommes les liot zariz, les zarez, ça veut dire nous ne sommes pas sur ce rythme d'empressement au retour en Eretz Israël que nous avions dans les premières générations de l'exil. Et il va l'expliquer un peu plus, c'est-à-dire que dans les premières générations de l'exil, nous n'avions qu'un empressement, qu'une zrizout de retourner. Mais ensuite, nous avons été pris dans le jeu des péripéties de l'accoutumance à l'exil. Et pourquoi nous ne ressentons plus le lien de cohérence entre ce que serait la faute et ce que serait la punition, c'est parce que nous sommes devenus anormaux par rapport au problème. Nous ne sommes pas ces premières générations qui savaient de quoi il s'agissait, al-basarab, comme on dit cela en français, qui éprouvaient de quoi il s'agissait, parce que lorsque ils pensaient à la tension d'espérance de retour, c'était vécu authentiquement, alors que assez rapidement dans le temps, et 2000 ans c'est très long, c'était devenu un rite de vœux pieux. Ça veut pas, c'est clair jusque-là ? Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas eu des hommes qui étaient malades de cet éloignement. Et c'est la raison pour laquelle, pendant tout le temps de la galoute, et même lorsqu'on avait conscience qu'on n'avait pas le droit de revenir, retenez cette phrase, on va l'étudier dans la Gemara, à l'échelle individuelle, on avait le droit si on ne supportait plus, et on préférait être en exil chez les Perses, en Eretz Israël, en exil chez les Perses, en exil chez les Grecs, en exil chez les Turcs, chez les Mamelucs ou chez les Britanniques, mais être en exil en Eretz Israël, ça c'était permis. Même pour ceux qui avaient conscience, pour quelque raison que ce soit, on va l'étudier en détail, qu'on n'avait pas le droit de revenir avant un certain signe, avant un certain avertissement, je ne sais pas quoi. Malheureusement, ça a été un signalement, mais il fallait attendre un signe. Donc je reprends la phrase. « Chez nous, nous marguichim l'aise chet anachnou lukim, kol kachar bepe amin » Ceci, je vous l'isole d'une introduction à ce livre, et son fils qui a rédigé l'introduction explique. L'allusion est que l'époque de l'exil s'était achevée. Le temps est revenu de revenir à la maison. C'est-à-dire, voilà le diagnostic important qui va nous servir de clé dans toute l'étude des premières références que nous allons voir déjà à partir de la Gemara. Parce que nous n'avons pas entendu ce signe, alors nous ne comprenions plus le lien entre faute, point d'interrogation, et punition réelle, point d'exclamation. Harish, HaKadosh Baruch Hu, Yiftiach Lanu, n'était-ce pas que Dieu nous avait promis, Bekarat Imanu Berit, non seulement nous avait fait des promesses, mais avait tranché une alliance, meyuchedet, particulière, alzman heyotenu bagalut, concernant le temps que nous devions rester dans l'exil. Sheneshev beshalva, il nous avait promis que nous serions en paix, beshalva en quiétude, ou befarnasa meruvaha, et que nous gagnerions bien notre vie. C'est-à-dire, exil, oui, mais il y avait une promesse, on étudiera les sources, que vous serez en paix, vous ne serez pas trop tribulé. Et comme dans les pays des goyim, comme les autres habitants du pays. Et peut-être mieux que. Or, voici qu'aujourd'hui, qu'on a même volé de nous-mêmes le droit à la vie. Une petite parenthèse, j'ai toujours été frappé, je l'ai dit souvent dans les cours, en particulier à Mariano, que dès qu'on voit qu'un certain état de la civilisation nécessite qu'il y ait un journal qui paraisse et qui s'appelle le droit de vivre, il faut se méfier, on est chez Caïn. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous vous rappelez le journal de Bernard Lecache? Est-ce que ça peut arriver, cela, qu'il faille faire un journal avec comme titre le droit de vivre? C'est Abel qui n'a plus le droit de vivre chez Caïn. C'est clair. C'est très significatif. Et c'est ce qu'il dit. La promesse sur laquelle on se basait, ça va, on ira en exil. Peu importe la raison, ça, on n'a pas encore appris. Mais on avait une promesse, vous ne serez pas trop mal. Bien? Et seulement, voilà, maintenant on est arrivé à un stade où ça ne marche plus. C'est plus cohérent. Gazlou meitanu kol zchut ha'chayim. On a volé de nous le droit, tout droit à la vie. Venatlou meitanu. Et on a pris de nous kol ma'amad ou matzav parnatsavenu. Toute possibilité de gagner notre vie, Veshavrou lanou kolmatelechem. Une expression d'Inikra qui veut dire, littéralement, on nous a cassé le pain avec lequel on pétrit le bâton avec lequel on pétrit le pain. Matelechem. Je ne sais pas comment on dit ça aujourd'hui en français. Le. Ça, c'est la pâtisserie. Bon. Nirava Ali. Alors maintenant qu'on est arrivé à ce stade-là, Nirab Ali, il est évident, Shakados Baruchu Natal Meitanu, que Dieu nous a retiré, Aftahat Agalut, la promesse qui concernait l'exil. Donc le raisonnement est très simple. Okay? C'est-à-dire on n'a pas su diagnostiquer cela, que ce genre de persécution-là, c'était le signe que la promesse de protection dans l'exil ne jouait plus. Et donc que ça voulait dire que l'époque de l'exil s'était achevée. Or, c'est clair jusque-là ? Or, ce que je voudrais ajouter tout de suite, c'est que ce diagnostic-là, c'était pas au temps du nazisme qu'il fallait le faire. Et déjà au temps des pogroms d'Europe centrale et de Russie qui ont déclenché le mouvement sioniste. Je voudrais être très clair à ce sujet. Ça veut dire qu'il y a eu une préhistoire au nazisme dans ce thème d'une persécution d'une dimension telle que c'était plus possible de penser qu'on était dans le temps de l'exil, dans le temps légitime de l'exil. Parce que dans le temps légitime de l'exil, il y avait une protection. Les persécutions n'étaient que les persécutions. Mais quand ont commencé ces grandes persécutions qui n'étaient pas que persécutions, avec les Cosaques, et vous rappelez des noms de ces barbares-là, Pieltura et tous ces gens-là, ça je vous renvoie aux historiens, c'est là que le diagnostic a été fait que quelque chose a changé. Or, c'est là que le mouvement sioniste est apparu. Est-ce que c'est bien clair? Top, okay. Si, si. Attendez, je vais ouvrir une parenthèse nécessaire. Quand on a fait allusion à ces choses-là, mais et puis je vais vous finir après ça. Je n'ai pas fini. C'est ça. Je vais essayer de vous décrire de façon diabolique ce qu'il y avait dans la tête des croisés. Subitement, pour des raisons à eux, vraiment des raisons à eux qui n'est pas toujours très pures, okay, ils ont décidé de délivrer la Terre Sainte des infidèles. Sur leur chemin, ils rencontrent des hommes dont toute la profession de foi est de dire qu'ils sont les hommes de cette Terre Sainte, mais qui préféraient s'installer chez eux, les goïms, gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hommes massacrés. C'était diabolique. Okay. C'est-à-dire, il faut remettre les perspectives là où elles sont. Imaginez cette espèce de courroux fanatique. Ces gens-là qui entendent leur curé leur dire, ces juifs-là que Dieu a déposés de leur terre, et tout, du matin au soir ils prient, ramène-nous à notre terre, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont parasites chez nous, et nous allons aller délivrer la Terre Sainte des infidèles musulmans. Vous voyez à peu près l'atmosphère de ces gens. Or, pardon? Par exemple, ça se reviendra. Bien sûr, je me fais l'avocat du diable, okay, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui doit nous donner à réfléchir? Et la réponse est la suivante. Toutes ces époques-là, c'était des époques possibles du retour en Israël pour Israël. Et chaque fois, nous avons eu des prophètes qui prophétisaient, maintenant peut-être, maintenant peut-être, maintenant peut-être. Chaque fois, ça a systématiquement échoué, en particulier au moment des croisades. Et enfin, les historiens vous diront qu'il y a eu plusieurs tentatives. Par exemple, celle qui me revient en mémoire, vous allez la situer dans l'histoire, c'est celle de Réhoubéni, prince des Juifs. Vous vous rappelez de cela? Non? Vous vous rappelez pas de cela? Bon, il faudra que je demande à un historien de vous faire un cours là-dessus. Et puis, il y a eu une tentative messianique qui aurait pu être authentique parce qu'elle était à l'échelle d'un mouvement national, d'un retour national, et pas des mouvements messianiques mystiques qui étaient très particuliers. Par exemple, Shabbat HaYetzir. C'était un mouvement messianique mystique. Et il a échoué comme tel. Quelle est la différence? La différence, c'est que quelqu'un vient dire « Je suis le Messie, suivez-moi ». Ça échoue. Alors que, au temps de Réhoubéni, prince des Juifs, il s'agissait de faire monter le peuple juif de l'exil sur sa terre pour fonder la nation d'Israël. Est-ce que c'est clair? Il s'agissait d'un mouvement d'Aliyah. Il s'est opposé aux chefs de communauté qui l'ont vendu au pape. Justement, je voudrais situer ça... L'époque de la Renaissance. Très bien. Voilà un exemple. Ils l'ont dénoncé au pape, il empêche les loyaux sujets d'être les fidèles sujets de la papauté. Vous voyez à peu près la réaction. C'est-à-dire, mais je crois que l'exemple le plus évident, c'est l'Inquisition. Il est évident que, là je vous rappelle une analyse importante, je ne sais pas si nous l'avons étudié ici, que Par définition, ce sont d'autres textes qui nous le montrent. Chaque fois que la symbiose dans l'exil, la symbiose judéo-goy a réussi, c'est le temps de décrocher. Ça fait partie de la dimension du problème, mission de l'exil. Pas punition, l'exil comme punition, mais l'exil comme mission. Ça, nous l'avons étudié un peu au premier trimestre. Et alors, il s'agissait de faire apparaître un moyen de communication, c'était le rêve de Joseph en Égypte déjà, avec la civilisation extérieure. Or, en Espagne, pour la première fois, ça a réussi de façon extraordinaire. Les Juifs fidèles à la tradition sfaradite d'Espagne le savent encore, puisqu'ils vivent encore de cette culture de ce temps-là. Je sais, il y en a parmi vous qui se rappellent de ça. Et c'est-à-dire, on est arrivé à faire un type de Juif de l'exil qui était l'homme de la culture du temps de façon réussie. La synthèse, la symbiose judéo-espagnole avait réussi. C'était le temps de décrocher. On avait déjà forgé le moyen de relation avec l'humanité du temps qui avait formulé sa culture universelle dans le visage espagnol. C'est clair ? Et au contraire, on s'est installé en se prétendant espagnol. La réaction est venue des Espagnols. C'est clair ? Plus tard, c'est la même chose avec la culture judéo-allemande. La culture judéo-allemande, avant le nazisme, s'il y a des historiens de la pensée germanique du XVIIIe et du XIXe siècle, ça, c'est la tarte à la crème des chaires de littérature comparée dans toutes les universités. Il n'y avait plus la pensée allemande, il y avait la pensée judéo-allemande. Et c'était une symbiose encore plus réussie que celle de l'espagnol. La symbiose judéo-espagnole a donné le type sfaradi, la symbiose judéo-allemande a donné le type ashkenazi au niveau de la culture humaniste. Et je pense que c'est clair. C'était plus que réussi. C'était donc le moment de décrocher. Au lieu de décrocher, on s'est pris pour des Allemands, réaction des Allemands. C'est le même scénario, finalement. Et je vous avais ajouté qu'aujourd'hui, le danger reste le même, en particulier en Amérique. Et aussi en France, dans la mesure où la France, le judaïsme français, disons, essaye, sur le modèle américain, de faire, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des Juifs de France, une sorte de culture judéo-française de Juifs qui ne savent même pas l'hébreu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à quel point ça peut être dangereux. Enfin, j'en ai parlé à un autre cours, je ne me souviens pas si c'était ici, okay, si vous lisez toute la littérature à hauteur juive contemporaine en France, vous apercevez à quel point c'est ça la pensée française. Alors, la réaction des Français ne peut pas ne pas se faire attendre. Elle a commencé, c'est la nouvelle droite. Il y a 3-4 ans, ça s'est attrapé là-dessus. Okay. Et ça ne veut pas dire que c'est fini, parce que le phénomène secrète sa propre réaction. Encore beaucoup plus dangereux. Les auteurs juifs, qu'on appelle en particulier les nouveaux philosophes. Je pas dire. Bon. Et alors, bon, je vois que vous n'êtes pas au courant tellement, mais sachez que le phénomène existe et il est assez grave. Parce que c'est le fait que des Juifs formulent une culture de symbiose entre l'identité juive et l'identité goy extérieure, et ils prennent la tête du mouvement philosophique. Or, on ne peut pas demander à une nation comme la France de supporter ça longtemps. Je pense que c'est clair. D'autant plus que le judaïsme qu'ils leur écrivent, c'est un judaïsme frelaté, inventé, j'ai participé une fois à un colloque avec Bernard-Henri Lévy. Il a fait 7 citations de la Bible, les 7 fausses. Alors, à la 8e, j'ai dit, vous voulez qu'on ouvre le livre? Il n'a plus cité la Bible. Une Bible qu'il a inventée. Comme dit le prophète Jérémie, et puis il raconte des histoires de Bernard-Henri Lévy. Alors, vous comprenez? C'est grave. Bon, c'est d'autant plus grave. Et alors, et les autres, il y en a toute une ribambelle. Et c'est un phénomène assez analogue. Je veux dire, en simplifiant le problème, quand la symbiose en question est réussie, il faut décrocher. Parce que finalement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce qui est arrivé en Espagne, il arrive ce qui est arrivé en Allemagne. Le juif espagnol s'est pris pour un espagnol. Réaction de l'espagnol, vous allez me le redire en espagnol, j'ai oublié, leur slogan c'était le sang pur. Non, limpia sangre, moi je vous casse. Non. Alors les Allemands, c'était la même chose, la race pure. Okay. Mais oui.
Et
je ne sais pas, il y a plusieurs choses. En tout cas, ça s'appelle Ordre Nouveau, la Nouvelle Droite, tout ça. Le Figaro et tout ça. Bon, alors sachez que c'est pas que premièrement, ils sont anti-juifs. Parce que premièrement, ils sont xénophobes. C'est que premièrement, ils sont français. C'est ça la gravité du problème. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est eux les Français. Donc. Alors, ça fait partie un peu de notre question. Ça veut dire, à chacune de ces époques, il y avait une occurrence possible. C'était dans la ligne de ce qu'on a appris la semaine dernière du Zahou Achishena. Mais maintenant, nous sommes arrivés, avec la contemporanéité de la Shoah, à l'Ozacha Be'ita. C'est clair? Pour ceux qui ont étudié le cours de la dernière. Alors, c'est là que le Sérav pose la question. Jacques Borou, Natal Meitanu, c'était donc le signe que Dieu nous avait retiré, Aftahat Agalut, la promesse qui accompagne l'exil, Bekeilu Amarlanu, et comme s'il nous avait dit, Beferouj, clairement, Banaï, mes enfants, Me'ata, à partir de maintenant, Enani Rotse, Chetit Akvu, Od Be'arsot Agalut, je ne veux plus que vous restiez dans les pays de l'exil. Alken, et c'est pourquoi, Macharti Yadi Mikem, j'ai retiré ma main de vous, Mileaftiah, de vous promettre, Od, encore, Yeshivatrem Bagola, de garantir votre séjour en exil. Rak Takumu Vetelechu El Hekimechem, mais levez-vous et revenez au sein de votre mère. Vetachuvu El Retzavotechem, et revenez au pays de vos pères. Akadosh Baruch Hu Dohek Banu, Dieu nous presse, les Havin, de telle sorte que nous comprenions, et Tzavashaha, la consigne de l'heure, Chidou Shamamlacha Yehudit Beret Israël, renouveler la société juive en Eret Israël. Voilà donc ce diagnostic. Et imaginez ce rab dans sa cave de Budapest, occupé par les fascistes hongrois et par les nazis par la suite, faisant cette découverte, se disant ça qui arrive maintenant, alors c'est relié à l'autre problème. Celui auquel les Haredim étaient opposés aux sionistes déjà depuis le temps des pogroms précédents, c'est-à-dire d'Europe orientale et d'Europe centrale. Ça va jusque-là? Bon. Alors nous allons étudier un premier texte qui va peut-être nous occuper plusieurs mois, ce petit texte-là. Okay. Ça va dépendre de vos questions d'ailleurs, sinon j'essaierai de schématiser. Et nous allons commencer par un mot que je vais vous indiquer, vous donner une feuille, je vous montre où il se trouve ce mot. Alors, vous allez prendre dans la deuxième partie en bas, on va d'abord lire cette ligne. Dans la deuxième partie en bas, vous voyez, la Gemara, à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 au milieu de la ligne. Ligne 14 au milieu. Amar Abelazar. Vous y êtes? Alors je dis, Amar Rabbi Elazar. Tout le monde y est? Rabbi Elazar a enseigné, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Voilà ce que Dieu a dit à Israël. Imatem et Kaimim et Tashvoa. Si vous réalisez le serment, Moutav, c'est bien. Quel serment? On a plusieurs séances pour étudier ça. De quoi il s'agit? Ce serment dont Rabbi Elazar parle comme si c'est clair, entendu. Tout le monde sait qu'il y a un serment. Vous suivez? Alors je reviens. Amar Abelazar. Abelazar enseigne. Amar Lahem, Akadosh Baruch Hu l'Israël. Dieu a dit à Israël, Imatem et Kaimim et Tashvoa Mutav. Si vous accomplissez le serment, c'est bien. Veimla, et sinon, Ani Matir et Besarchem, je rendrai permise votre chair, Kisvaot ou Keailot Asade, comme les biches et les gazelles des champs. Ou c'est l'inverse. Comme les biches et les. Comme les gazelles et les biches des champs. Nous verrons sur quel verset ça se base. Et alors, petite parenthèse, j'ai encore cette semaine suivi Hamoud Daesh à la télévision, ceux qui l'ont vu. Bon, j'ai pas besoin de dire plus. C'est-à-dire, on voit bien que c'est ça qui est arrivé. Alors, prenez Rashi sur Matir et Bessachem. Vous y êtes? Donnez-moi une feuille, je vous montre où ça se rachète. Voilà, vous l'avez ici, si vous arrivez à voir. Dans la deuxième partie, juste la dernière ligne où Rachid prend toute la ligne, au troisième mot, Matir et Besafek, dans Rachid. Vous y êtes? Alors Rachid explique ça. Matir et Besafek, je rendrai permise votre chair, il dit un mot, Lachon Efker. Qu'est-ce que ça veut dire? Matir, je rends permis, Efker. Qu'est-ce que ça veut dire Efker? Il n'y a plus de garantie. C'est exactement ce que le Rav nous a dit dans son langage, dans cette introduction. D'ailleurs, le mot de Efker n'est pas traduisible, mais je pense que vous le comprenez en hébreu. C'est-à-dire quand Israël devient, les Juifs deviennent Efker. Hein? Oui, c'est-à-dire sans plus aucune règle ne joue pour eux. Or, il est bien évident que c'est ça qui s'est passé. Donc, notre question peut être formulée à partir de ce texte. Ça qui s'est passé, pourquoi? C'est clair. Et donc nous avons un enseignement de Rabbi Elazar qui nous dit, qui fait allusion à un serment qui n'est pas réalisé. De quel serment s'agit-il? Alors pour ça, on va recommencer le texte au début. Ça c'était juste l'introduction pour poser le sujet. Ça va, jusque-là? Donc. Alors on commence, là vous avez, on m'indique que votre texte commence, c'est là-haut, deuxième ligne, là vous avez un tiret noir. On commence par une braïta. Une braïta, je vous signale, qui se trouve ici, nous sommes dans le Talmud de Babylone. Or, le Talmud de Babylone, c'est les communautés qui n'avaient pas voulu revenir au temps d'Ezra et de Néhémie. Je vous signale ça pour vous montrer l'honnêteté du Talmud de Babylone, qui, à propos d'une étude de la Mishnah, nous sommes dans le Maseret Ketuvot, ça veut dire on étudie le cas très précis. Lorsque une femme mariée qui se trouve à Babel veut monter en Eretz Israël et que son mari ne veut pas, elle a droit à sa ketouba. Est-ce que c'est clair? La Mishnah nous dit, on peut l'étudier en détail d'ailleurs d'autre part, tout le monde monte en Eretz Israël et personne ne descend. Voilà comme dit la Mishnah. Tout le monde doit monter, personne ne doit descendre. Après, on étudie les cas particuliers où c'est permis de descendre. Okay? Dans tous les cas, quand on doit faire un voyage, on doit demander la permission à son rabbin, c'est la halakha. Okay? C'est lui qui doit diagnostiquer, tu as le droit de descendre ou pas. Mais la halakha, quand même, établit des cas généraux où, a priori, il faut donner cette autorisation. Je ne vous dirai pas lesquels. En tout cas, pour revenir à ce problème, à propos donc de ce fait qu'une femme mariée qui veut monter en Eretz Israël, comme on dit aujourd'hui, elle veut faire sa alia, mais son mari ne veut pas. Elle a droit à son divorce, et le mari doit lui payer la ktouva. Et d'ailleurs, on avait l'habitude de dire, et le mari doit lui payer la ktouva 13 fois. Non. Et vous voyez à quel point la Gemara est sioniste. Et pourquoi pas? Mais c'était en passant. Et alors, la Gemara dans le Babli cite une braïta qui renforce ce principe de la loi qu'elle étudie. Okay? Et comme je disais tout à l'heure, on n'oublie pas qu'on est dans le Talmud de Babel, c'est-à-dire des communautés qui ne voulaient pas la Aliya. Est-ce que c'est clair? Après la destruction du premier temple, qui ne sont pas revenus avec Ezra et Néhémie. Comme si, et ça, il n'y a que le peuple juif pour faire ça. Imaginez dans une yeshiva, je ne sais pas où, j'allais parler arabe, mais enfin, loin, les rabbins anti-sionistes qui discutent pieusement du fait que si une femme veut monter en Eretz Israël, elle a droit à sa ktouva et on discute. C'est inouï. Je crois que on n'a encore jamais décrit ce peuple-là. C'est vraiment bon. En tout cas, ça renforce l'honnêteté de la citation que je vais vous faire. Si elle était dans les Yerushalmi, on comprendrait. Parce que les Yerushalmi commencent par excommunier les rabbins de Babel sans discussion. En leur disant, vous n'avez plus de part dans la religion d'Israël. Vous faites des calendriers en vous basant sur l'horaire de Babel. Or, ceux qui savent à quel point les lois du calendrier, c'est le commencement de la révélation de la Torah, c'est donc qu'il s'agit d'une autre Torah. Eh ben, vous comprenez ce que je veux dire. Si ça vous intéresse, je vous lirai au début du cours la prochaine fois un passage dans la Gemara qui montre ça. Vous éditez des calendriers à Paris. Imaginez un calendrier du consistoire. Vous avez compris le problème. C'est inouï parce que c'est là la prérogative du Sanhédrin, c'est le calendrier. Alors, s'ériger comme Bédin à Babel pour ériger le calendrier, quand c'est Rosh Chodesh, quand c'est Rosh Hashanah, c'est une autre religion. Ça va jusque-là, okay, la position. Et le Talmud Babli le cite pour montrer à quel point les Juifs sont géniaux. Okay, ça dépasse tout. Et parce que souvent on me pose la question, mais ces choses-là, est-ce qu'ils ne connaissent pas les autres? Vous connaissez cette question? Ah ben vous voyez, c'est inouï, mais c'est comme ça. Ils le connaissent, mais... Alors cette braïta dit ceci, on va commencer doucement, doucement. L'Eolam, Yadur Adam, Meret Israël, dans tous les cas, l'Eolam, et l'Eolam dans tous les cas, ça veut dire règle générale. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des exceptions. Seulement, la règle n'est pas du côté de l'exception. Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que vous avez compris. C'est-à-dire, si un cas... Si un cas où on peut se poser la question, est-ce que c'est ce cas-là, et qu'on a un doute, il faut trancher pour la règle et non pas pour l'exception que prévoit la règle. Est-ce que c'est clair, l'air en l'âme, en règle générale. Ça va? Yadur Adam, l'homme doit résider Be'eret Israël, en Eret Israël, à Filou Be'ir Sheruva Ovde Kochavim, même dans une ville qui est en majorité peuplée d'idolâtres, Ve'al Yadur Bechul, et ne doit pas habiter en Hutlaaret, Ve'a Filou Be'ir Sheruva Israël, même dans une ville peuplée en majorité d'Israël. La Braïta est claire. Une précision. Ça veut dire que cette Braïta excommunie pratiquement, si j'ose dire, si elle avait force de loi, excommunierait la majorité des Juifs qui habitent dans les villes de l'étranger. Et même s'il s'agit d'une ville en majorité peuplée de Juifs. Je ne sais pas si Sarcelles, c'est déjà le cas. À New York. Quoi, la majorité des New Yorkais, c'est des Juifs? Bon, rien à beaucoup.
1,5 million. 1,5 million de Juifs.
Non. Seulement, en hébreu, il y a une différence entre ces deux mots. La gour et la gour. Le mot de la gour signifie la gour avec gimel, gour. D'où vient le mot de guerre, par exemple. La gour signifie habiter quelque part en ayant conscience qu'on n'est pas chez soi. La gour. C'est clair? La dour, c'est habiter quelque part en ayant conscience qu'on est chez soi. D'où le mot de dira, par exemple. La dour, c'est keva. La gour, c'est aray. C'est clair? Bon.
Comme garage. Hein? Comme garage, la gour.
Oui, enfin, comme voyage. Et...
Garage.
Ça y est. Bon. Ça veut dire que finalement, cette Mishnah aménage le cas de tous les Juifs qui n'ont pas conscience à l'étranger d'être chez eux. Donc, on en a déjà sorti énormément du Gaïla. Okay, j'ai compris. C'est-à-dire, ça ne concerne, au fond, que celui qui a sa demeure principale à l'étranger en tant que demeure principale. Objection. Tant qu'on ne pouvait pas faire autrement, la loi, cette loi était suspendue. C'est clair. C'est Ones, Rachamana, Ptira. C'est-à-dire, lorsqu'on est obligé, il n'y a pas moyen de faire autrement, alors la loi est suspendue. Pas levée, mais... Enfin, pas annulée, mais suspendue. Ça veut dire que cette braïta prend force de loi dès que c'est possible. Puisqu'elle-même se formule ainsi, les olam, dans tous les cas où c'est possible, il y a d'où. Est-ce que c'est clair? Mais dans tous les cas, ça, il faut faire un effort de mémoire traditionnel. Il est évident que pendant les siècles, les Juifs, quand ils construisaient des maisons dans l'exil, mettaient des signes comme quoi c'est provisoire. Par exemple, ça se relie aussi à notre principe, je me souviens en Afrique du Nord, dans la pièce principale, on n'achevait jamais la peinture. Il y avait toujours un carré qui n'était pas peint. Je ne sais pas si vous avez connu cela. On laissait la pierre nue, oui. Et, ou bien, je veux dire, un cas qui est très connu, la synagogue de Prague, qui s'appelle Altnai. Et ça veut dire, il y a une interprétation tardive que c'est en allemand vieux ancien, ou ancien vieux, okay. Mais en fait, en hébreu, c'est Altnai. À condition qu'elle soit ramenée en Israël au temps du Messie. On la construisait Altnai, c'est-à-dire que ce n'est pas définitif. Ah non, ça, la maison en biais, c'est la halakha de la maison. Il faut la mettre en direction de l'endroit où on rentre. Chez les Ashkenazis. Non, non, c'est vrai. Mais c'est le rite Ashkenaz. Babli. Oui, il est Babli. Il faut mettre le. Non, chez les Ashkenazis, on a toujours mis droite. Mais chez les Sfardim, on a toujours mis. C'est pas péjoratif d'être droit.
À condition qu'elle soit amenée.
Oui. C'est-à-dire qu'on construisait une synagogue avec cette clause, Altnai. Ça veut dire que bien sûr, ça ne peut pas être définitif. Mais enfin, disons, grosso modo, depuis l'émancipation, peut-être, et peut-être parfois depuis avant. En tout cas, en Espagne, au temps de l'émancipation précédant l'Inquisition, on a perdu cette habitude. On n'a plus ce sentiment qu'on était dans le lagour et pas dans le ladour. C'est clair? Alors, si cette braïta devait prendre force de loi, par exemple, si nous avions un Sanhédrin qui déclarait la législation rabbinique comme étant la constitution de l'État d'Israël, ça veut dire que tous les Juifs qui auraient un passeport étranger ne seraient plus considérés comme juifs. Bon, je vous ai donné une formule limite, okay. C'est-à-dire ceux qui considéraient que leur demeure principale, c'est à l'étranger, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire... Laissez-moi parler. Ça ne veut pas dire que... Il faut simplement se rappeler la différence du sens des deux mots. La Braïta a dit « Yadour », pas « Yagour ». C'est clair? Ça ne veut pas dire qu'un Israélien n'a pas le droit d'avoir une résidence secondaire et un passeport y afférent. Mais je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Ça veut dire quelqu'un qui situe son identité résidentielle pas en Eretz Israël. Ça veut dire que ça va très loin. Est-ce que c'est clair? Et si vous voulez, nous pouvons étudier, on y reviendra d'ailleurs, la dimension théologique du problème. Et en particulier, Nahmani, le Ramban, a cité des références extrêmement précises à ce sujet. Il y en a une que la Gemara elle-même va citer tout de suite, d'ailleurs, nous allons voir. Selon la Torah, la relation au Dieu d'Israël passe par Eretz Israël. Pour une mentalité occidentale, c'est une notion très difficile. Qu'il y a une localisation.